Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Eh oui, les 6h avant minuit, bonsoir. Vous écoutez l'émission d'actualité locale de Syllab. Très, très bientôt, le 17 janvier, ce sera le début du festival Waterproof à Rennes. Et dans le cadre de ce festival, Syllab vous offre 2 places pour un spectacle organisé. Il s'agit de la conférence sur rien de John Cage qui sera lue par Jérôme Bell à la chapelle du Conservatoire de Rennes le 25 janvier à 20h30. Le spectacle, en quelques mots, je n'ai rien à dire et je le dis. Sur un plateau quasi nu, le danseur et chorégraphe Jérôme Bell propose une expérience hypnotique qui questionne nos attendus sur le genre scénique, une réflexion qui est à la fois philosophique, éthique, politique. Pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe que je vous transmets. Donc on reste dans le thème, le mot de passe est...
Il n'y a pas de mot de passe.
Exactement, merci Eva. Pour jouer, ça se passe sur c-lab.fr, mais tout de suite, c'est le flash d'Eva.
Jean-Marie Le Pen est mort, a annoncé sa famille à l'AFP ce midi, peu après son décès. Âgé de 96 ans, le cofondateur du Front National, devenu Rassemblement National, est décédé à Garches, dans les Hauts-de-Seine, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Surnommé le menhir, Jean-Marie Le Pen a occupé le paysage de la politique française pendant près de 40 ans, souligne France 24, en s'affirmant comme la figure tutélaire de l'extrême droite. Fervent défenseur de l'Algérie française, il avait notamment commis des actes de torture sur Ahmed Moulay lorsqu'il était soldat pour l'armée française lors de la guerre d'Algérie. Comme l'a aussi rappelé François Ruffin sur X, il ajoute « Un fasciste d'un autre temps s'en est allé, mais laisse derrière lui des héritiers très actuels. » Jordan Bardella rend lui de son côté hommage à Jean-Marie Le Pen en affirmant qu'il a toujours servi la France. Dans un communiqué, l'Élysée le qualifie d'une figure historique de l'extrême droite, dont le rôle dans la vie publique de notre pays pendant près de 70 ans relève désormais du jugement de l'histoire. Des habitants encore sous le choc qui regardent leur maison tomber en ruine en seulement quelques minutes. Dans la région autonome du Tibet, au sud-ouest de la Chine, à 9h ce matin, heure locale, un puissant séisme a frappé le canton de Dingri, près de la frontière sino-népalaise. 6,8 de magnitude selon l'Agence nationale chinoise chargée des séismes, 7,1 selon l'Institut d'études géologiques américain, le tremblement de terre a été ressenti jusqu'au pays voisin népalais. Au moins 95 morts et 135 blessés, ainsi que l'effondrement de nombreux bâtiments dans la zone touchée, sont recensés selon le rapport des autorités locales. Alors qu'ils étaient en formation, quelques dizaines de désertions de soldats ukrainiens ont été constatées hier par l'armée française. Ces soldats appartenaient à une brigade ukrainienne venue en France pour être formée et équipée avant de retourner sur le front en Ukraine. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Mykhailo Drapaty, a évoqué hier des problèmes au sein de l'unité, faisant référence aux enquêtes ukrainiennes menées depuis le 2 janvier 2025 sur des cas d'abus de pouvoir et de désertion. Il assure tout de même que, dans la mesure du possible, tous ces problèmes sont en train d'être résolus. Et un responsable de l'état-major français ajoute à l'AFP que « il y a eu un certain nombre de désertions, mais qui restent très marginales au vu du volume de personnes qui ont été formées ». Aujourd'hui, cela fait 10 ans que la rédaction du journal Charlie Hebdo a été décimée par l'attaque terroriste des frères Chérif et Saïd Kouachi. En fin de matinée, devant les anciens locaux de l'hebdomadaire, un premier hommage aux victimes a eu lieu, notamment en présence d'Emmanuel Macron. Un peu plus tard, à quelques mètres de là, un autre a eu lieu en mémoire du lieutenant de police Ahmed Merabet, lui aussi tué par les terroristes. Partout en France, des cérémonies ont eu lieu. Aglaé nous parle des initiatives lancées à la suite des attentats.
Tout d'abord, revenons sur ce qu'il s'est passé ce jour-là. 7 janvier 2015, vers 11h30, les frères Kouachi entrent dans les locaux du journal. En moins de 10 minutes, ils abattent froidement 12 personnes, dont 8 appartenant à la rédaction. En s'enfuyant, ils crient « On a vengé le prophète ». Aucun doute, l'attaque est liée à la publication de caricatures de Mahomet. À la suite de cet événement, marquant la France entière, de millions de manifestants et manifestantes se sont réunis le 11 janvier 2015 en soutien à la liberté d'expression. Des initiatives ont aussi vu le jour, c'est le cas de la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, commémorée pour la première fois le 11 mars 2020. Un centre national de ressources et de résilience a également pu être créé en 2019. Aujourd'hui même, Guillaume Denoy de Saint-Marc, fondateur de l'Association française des victimes de terrorisme, a annoncé qu'Emmanuel Macron relance le projet de musée mémorial du terrorisme sur le mont Valérien à Suresnes. Ce musée mémorial a pour but de rendre hommage à toutes les personnes victimes de terrorisme, mais pas uniquement. L'objectif est aussi qu'il soit un musée d'histoire et de société, une plateforme de documentation et de recherche, un centre de formation, de conférences et de débats, ainsi qu'un lieu de recueillement. En réflexion depuis 2016, le projet avait soudainement été stoppé en décembre après la censure du gouvernement Barnier. La principale raison de ce blocage est financière. Déjà 10 millions d'euros ont été déboursés sur les 95 millions de budget prévus. Mais il se peut qu'il y ait une autre raison derrière cela. Le musée doit être érigé sur le mont Valérien, lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais certaines institutions ont peur que cela fasse disparaître ce lieu de commémoration. Pour les mêmes raisons, Rachida Dati, ministre de la Culture, n'est pas non plus emballée par le projet. Elle est aussi proche de Pierre-François Veil, président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui de son côté est fermement opposé à la construction. Les travaux n'ont pas encore débuté, mais l'ouverture est déjà prévue pour 2027.
Personnellement, j'ai entendu parler d'une maison de dessin de presse. Est-ce que tu peux nous en parler, Aglaé ?
La maison de dessin de presse est un projet lancé en 2007 par Georges Wolinski, dessinateur de presse tué dans l'attentat de Charlie Hebdo. Cette entreprise est restée en suspens jusqu'à ce que Maryse Wolinski la reprenne après l'assassinat de son mari. En 2022, Emmanuel Macron annonçait le lancement de la maison. Et depuis l'année dernière, le projet stagne. Le 28 novembre dernier, Rachida Dati annonce soudainement que la maison de dessin de presse ouvrira aussi ses portes en 2027. Sa mission, retracer l'histoire du dessin de presse en France depuis la Révolution, accueillir des résidences d'artistes, mais aussi faire de la médiation, notamment auprès des publics scolaires. Une exposition permanente avec des dessins originaux ainsi que des reproductions sera aussi visible. Reste à savoir si les caricatures de Mahomet seront exposées.
Aujourd'hui, Charlie Hebdo publie un numéro spécial pour la commémoration des attentats. Vous pouvez le retrouver chez votre marchand de journaux ou sur le site internet du journal. Le tout premier cas de Mpox en France a été diagnostiqué hier à Rennes. Selon Ouest France, une femme hospitalisée au CHU de Rennes est infectée par le variant clade 1B du virus Mpox, aussi détecté dans plusieurs pays européens. Dans un communiqué du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, le risque d'infection par ce variant pour la population générale en France et en Europe est considéré comme faible par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Le ministère explique que le cas déclaré concerne une personne n'ayant pas voyagé en Afrique centrale, la région où circule en ce moment le plus de variants du Mpox. Cette personne a toutefois été en contact avec deux personnes de retour d'Afrique centrale. Les investigations sont en cours pour rechercher l'origine de la contamination et identifier l'ensemble des personnes contacts à risque autour du cas diagnostiqué, a conclu le ministère dans le communiqué. Karine Lacombe, la chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, interrogée par France Info, rappelle que la majorité des contaminations se font par contact cutané, mais pas du tout par l'air, en insistant sur l'importance de la vaccination face à cette maladie contagieuse. Quatre autres personnes ont fini au CHU de Rennes, mais pour une toute autre raison. Quelle raison ? Suite à une fuite de monoxyde de carbone dans leur immeuble dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La fuite proviendrait d'une chaudière défaillante et a nécessité l'intervention des pompiers. 25 personnes ont été contrôlées, mais seulement 4 ont été transportées au CHU. Sans gravité, elles ont été placées sous surveillance. Pour rappel, ce gaz incolore et inodore est toxique pour le corps humain et peut engendrer la mort dans le pire des cas. Le ministère de la Santé a publié un message sur son site rappelant que, chaque année, le monoxyde de carbone est responsable d'une centaine de décès en France, suivi d'une liste de gestes simples pour réduire les risques d'intoxication, comme faire vérifier son installation de chauffage régulièrement, aérer son logement même l'hiver et ne pas boucher les entrées d'air. Samedi 30 novembre dernier, des habitants et habitantes du square Yves Lemoine à Villejean se mobilisaient contre un projet de construction porté par l'archipel Habitat. L'idée, construire sur le square 3 immeubles de 38 logements. Une mobilisation qui a porté ses fruits. Pascal, locataire depuis 32 ans à Yves-le-Moine, nous explique pourquoi elle s'est levée contre et ce que les habitants et habitantes ont réussi à obtenir.
Nous, en tant que locataires du square, on est contre parce que ça nous boucherait la vue. On a un petit square et donc on aurait un manque de luminosité, une surpopulation et tout ça. Maintenant, je suis retraitée et donc je passe beaucoup de temps dans le square chez moi. Et c'est vrai que la perspective d'avoir un immeuble à 15 mètres, ils voulaient le mettre à 15 mètres de notre immeuble, c'était quand même très désagréable et on avait peur de ce manque de luminosité et tout ça, quoi. On était contre. On est un petit nombre de représentants des locataires et on a été aidés beaucoup par l'association Si on s'alliait, quoi, pour nous orienter un petit peu, enfin, comment faire, quoi. C'était 97% des locataires qui s'opposent au projet. Mais dans la mobilisation, c'est vrai qu'on est, pas énormément. Mais on représente quand même la majorité de l'opinion des locataires du square. Après notre mobilisation, on a eu une réunion le jeudi 12 décembre avec le directeur d'Archipel Habitat, les architectes, l'architecte et le club, Madame Maury, Monsieur Hervé, Rennes Métropole, la ville de Rennes et tout ça, pour nous présenter un nouveau projet qui serait la construction d'un immeuble le long de la rue Flandinkerque, c'est-à-dire que ça serait plus au milieu de notre square, mais qui fermerait en fait notre square. Il y a aussi une surélévation d'un des immeubles en face qui pourrait éventuellement proposer 3-4 logements. Ils nous ont expliqué que le terrain appartenait à Archipel Habitat et donc ils veulent construire parce qu'il y a un manque de logement social. C'est sûr, on le conçoit bien. Bon, bah, ce nouveau projet, on est plutôt pour par rapport à l'autre, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne devraient rien construire dans le square. J'espère que ce nouveau projet va voir le jour parce que c'est vrai que ça nous laisserait quand même le square comme il est, quoi.
Le début des travaux est prévu pour 2026. On vous tiendra au courant s'il y a des rebondissements dans cette affaire et on remercie Sissi pour ses reportages. Des sculptures à partir de tiges et de fils d'acier. À la galerie Pictura, à Cesson-Sévigné, l'exposition Évidence de Annelise Nguyen propose du 8 janvier au 7 février de redécouvrir le métal sous ses formes sculptées. Inspirée de la mécanique des fluides, des courants marins, elle utilise la composition atomique des métaux pour redéfinir son aspect, ses propriétés et ses contours. Le vernissage de l'exposition se passe demain à 18h30 avec entrée libre. Pour plus d'informations sur Évidence, rendez-vous sur le site Pont des Arts.
Ça a l'air super, merci Eva pour ce flash.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Ce soir, Glay, tu as deux invités pour parler création et numérique.
Effectivement, ce soir, nous accueillons l'association Électronique. En face de moi, Samuel
Electronica.
Electronica, ah pardon. Autant pour moi. Electronica, en face de moi, Samuel Arnoux, directeur de l'association. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à sa droite, Laure Offrette, coprésidente de l'association. Bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Electronica et en quoi ça consiste ?
Eh bien, Electronica, c'est une association qui œuvre depuis une vingtaine d'années, qui a d'ailleurs été créée ici sur le campus Villejean par un groupe d'étudiants. Et oui, étudiants, pas être trop d'étudiantes à l'époque. Et voilà, qui promeut depuis une vingtaine d'années, à la fois via un festival qui se nomme Maintenant, depuis un petit moment maintenant, qui a lieu au mois d'octobre chaque année. Et tout au long de l'année, avec une équipe de salariés, la promotion, la diffusion et la production de créations d'œuvres qui touchent à la fois au domaine des arts visuels, des arts sonores et notamment en utilisant le médium numérique, mais voilà, qui s'en inspire et qui utilise la matière, les technologies pour produire des œuvres. Voilà, donc c'est un projet associatif multifacette, à la fois tout au long de l'année, avec un gros temps fort en octobre à Rennes et dans la métropole.
Et une autre des missions d'Electronica, c'est d'accompagner l'évolution des pratiques professionnelles du secteur culturel aux nouveaux usages numériques. Donc comment est-ce que ça se passe pour accompagner cette...
Alors, ça prend différentes formes, effectivement. Alors, je vais dire un lieu commun, mais le numérique bouleverse la société depuis maintenant 50 ans. Et évidemment, il y a plein de ramifications dans ce bouleversement. Et dans le secteur artistique, alors que ce soit dans la création, mais dans la façon dont on l'accompagne, dans la façon dont on communique, à plein d'endroits, en fait, les usages professionnels sont en mutation, en constante mutation. Et on essaye, nous, enfin, et les artistes qu'on accompagne en témoignent, et nous, on intègre, on va dire, aussi ces mutations, ces usages dans nos pratiques, et du coup on espère essayer de rester un peu en pointe sur ce qui se fait, sur ces nouveaux usages, en tout cas les utiliser dans nos pratiques. Et du coup, comme on a pris cette habitude là on s'est rendu compte qu'on avait développé une forme d'expertise qu'on essaye de partager avec d'autres professionnels. Et donc, pour répondre à votre question, on est aussi organisme de formation, donc on forme les professionnels à comment utiliser le numérique dans la médiation culturelle, par exemple.
Et quand vous parlez de nouveaux usages, concrètement, par exemple, c'est quoi ?
Et par exemple, comment est-ce qu'on peut utiliser la réalité augmentée dans un projet de médiation artistique quand on est médiathécaire, quand on travaille dans un musée, qu'on accueille des publics, comment est-ce qu'on utilise des outils comme la réalité augmentée, mais je parle de ça, ou comment est-ce que l'intelligence artificielle, par exemple, pour parler d'une technologie plus récente, en tout cas plus récemment grand public. Voilà.
Et depuis combien de temps vous faites cet accompagnement de...
Alors, ça fait... L'activité de formation, ça fait 5-6 ans qu'elle existe, qu'elle est développée de manière un peu... Comme ce qu'on a fait dans les différents axes de projet, on les teste, on les expérimente, on les développe de manière un peu embryonnaire, un peu en bêta-test. Et donc là, ça fait 5-6 ans que ce processus est enclenché et on voit que ça prend, que la demande continue de se développer. Donc c'est une activité qui est encore en train de se structurer. Voilà.
Et combien êtes-vous chez Electronica pour remplir toutes les missions de l'association ?
Alors on a à la fois la chance d'avoir une communauté associative bénévole assez impliquée, depuis longtemps impliquée, et donc des salariés. On est 9 salariés à temps plein toute l'année. On a des renforts, on a en moyenne entre 2 et 4 personnes qui viennent en plus, donc en stage, en service civique, en alternance toute l'année avec nous. Et on a une équipe de bénévoles, donc un conseil d'administration, ils sont 12 dans le conseil d'administration, il y a une centaine de bénévoles sur le festival. Et on a une équipe d'intermittents, d'une vingtaine de personnes sur le festival en technique avec nous. Et évidemment, des équipes artistiques et des intervenants plus ponctuels sur les différentes actions qu'on fait. Donc, ça fait pas mal de monde. Au total, on doit être 150, 170, tout compris, quoi.
Et donc, vous travaillez avec des professionnels, des artistes. Est-ce que vous travaillez, vous collaborez, entre guillemets, avec d'autres associations, potentiellement, ou d'autres structures ?
Alors oui, beaucoup, à toutes les échelles de territoire, évidemment à l'échelle de la ville de Rennes, Rennes Métropole, on a tissé beaucoup de partenariats avec beaucoup de partenaires, ce serait très long de les citer, mais pour en citer quelques-uns, on pense évidemment au Champ Libre, au Musée des Beaux-Arts, à l'Opéra de Rennes, à l'Orchestre de Bretagne, aux différentes médiathèques, bibliothèques, aux maisons de quartier, voilà, c'est pour le territoire. Et puis à l'échelle régionale, c'est aussi un travail qu'on mène, on le fait aussi à l'échelle nationale avec des structures qui nous ressemblent, sur des coproductions, des partenariats, notamment autour d'artistes. Et puis on est engagé dans des projets internationaux à l'échelle européenne et internationale.
Je me permettrais peut-être de compléter, parce qu'avec l'équipe qui travaille à l'année, notamment sur le champ de l'action culturelle et de la médiation, il y a aussi un lien très fort avec des acteurs associatifs ou institutionnels du champ médico-social, par exemple. Aussi pour apporter, aller vers et échanger, se nourrir vraiment, parce qu'on a à la fois les droits culturels au cœur de notre projet et de l'ADN de l'association. Donc on tisse aussi des liens. Et un des éléments marquants, c'est aussi l'implication, c'est-à-dire avec une mission déléguée par la collectivité rennaise d'une mission d'accompagnement et de coordination qui s'appelle Passeur de Culture. Peut-être que vous connaissez ce dispositif qui met en relation des acteurs du champ culturel avec des acteurs du champ social ou médico-social pour amener vraiment une démarche de médiation auprès des publics soit plus éloignés, soit plus en difficulté d'accès à la culture. Voilà, parce qu'on parlait des partenaires associatifs, donc ça me semblait important de le rappeler, très ancré sur le territoire.
Et une autre des missions qu'on vous a déléguées, c'est par le ministère de la Culture, parce que Electronica fait partie des 5 pôles, enfin est un des 5 pôles régionaux déployés par le ministère de la Culture. Qu'est-ce que c'est concrètement?
Ça, c'est une très grande nouvelle pour nous, et on est ravis d'ailleurs de votre invitation, parce que là, on est à un tournant aussi dans le projet associatif, à la fois porté par le conseil d'administration, mais aussi est très incarné par l'ensemble de l'équipe. Il y a déjà, c'est un long dossier quand même, il y a plusieurs années de ça, il y a l'écriture aussi de ce qu'était la création, on va dire dans l'environnement numérique, mais avec le numérique pour faire simple. Parce que nos projets, les artistes qu'on accompagne, les productions portées par Electronica rentrent rarement dans les appels à projets, cochent pas forcément les cases, soit du spectacle vivant, soit de la musique, soit de la danse, soit du théâtre, etc. Et il n'y avait rien pour le numérique. Donc l'équipe a travaillé avec d'autres partenaires que citait Samuel, avec Anne Burlot-Thomas qui accompagne depuis de très nombreuses années ces acteurs de création en environnement numérique, et un rapport a été déposé au ministère qui l'a entendu et qui, d'un point de vue pour l'instant expérimental, a confié des budgets mais aussi des missions à 5 pôles régionaux, dont le pôle régional, on va dire breton. Et dans chacun de ces pôles régionaux, il s'agissait d'identifier aussi un seul acteur qui pouvait incarner cette mission. Electronica a été reconnue par son expertise actuelle, son agilité, son renouvellement, son innovation, comme cet acteur breton.
Félicitations.
Donc, c'est quand même quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qui forcément dessine la suite du projet associatif et des différentes composantes voilà, je laisserai Samuel sur cette partie-là. Mais donc effectivement, qu'est-ce qu'un pôle régional création qui soutient la création en environnement numérique? C'est avant tout pour Electronica l'opportunité de défendre la création, de défendre les artistes, de défendre des productions et de les faire voir au plus grand nombre, aussi de les faire circuler davantage sur, en l'occurrence, les 4 départements bretons, tout en restant très ancré, évidemment, sur le territoire du bassin rennais, de la ville, mais de la métropole aussi. C'est de travailler aussi avec des acteurs, donc on va dire plus largement sur les autres départements. C'est évidemment un soutien financier, c'est une reconnaissance, mais c'est aussi un soutien financier important à la fois pour notre structure, mais aussi pour tout ce qui est déployé artistiquement. Donc voilà, ça permet évidemment, enfin on nous attend aussi sur de la coopération, mais ce qu'on savait déjà faire, sur de la mutualisation de moyens, c'est travailler en fait plus en intelligence collective, j'ai envie de dire. Et à la fois, ça se déploie sur des échelles très différentes, c'est-à-dire qu'Electronica a été reconnue aussi à l'échelle nationale, c'est-à-dire qu'on va être animateur d'expertise et de transmission sur le champ de la médiation culturelle, donc sur les enjeux d'action culturelle, ce qu'expliquait Samuel tout à l'heure. À l'échelle régionale, ce que je disais, c'est de bien sûr fédérer des acteurs de territoire, de créer, structurer un écosystème plus impliqués dans la production et la diffusion des œuvres sur les 4 départements bretons. Et au-delà de ça, c'est de se rapprocher en interrégional, parce qu'on a des petits copains qui sont tout près de nous, qui ont aussi été retenus comme référents du pôle régional, à savoir côté Normandie, à Caen, on a nos camarades de la station Mire et du festival Oblique. Et pour ce qui est des Pays de la Loire, nos autres voisins à Nantes, c'est Stéréolux qui a été retenu. Donc, ils sont des voisins. Voilà, Samuel vous en dira un peu plus sur la dynamique créée dans cette échelle interrégionale aussi, et qui donne au Grand Ouest une vraie force de frappe de ce point de vue-là.
À propos de cette collaboration interrégionale, vous travaillez sur une plateforme de coproduction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est-ce que ça va? Est-ce que c'est en train de se faire ou...
On est en plein dedans. Donc c'est et les un appel à projet devrait sortir prochainement. L'idée, c'est cette création d'environnement numérique, elle a pour spécificité d'hybrider un peu les disciplines. Les artistes ne restent plus cantonnés aux cases, on va dire, de la musique, la danse, le théâtre, etc. Et avec le numérique, en tout cas, l'un de ces aboutissements, c'est de flouter un peu ces frontières-là. Et du coup, le ministère étant, et les financements étant encore beaucoup basés sur la discipline d'origine des artistes, ces artistes-là avaient du mal à se financer. Donc l'un de nos enjeux à nous, c'est justement d'avoir des moyens pour mieux accompagner ce type de création, la création hybride et numérique. Et donc avec nos petits camarades à Nantes et à Caen, on est en train de monter une plateforme de coproduction avec l'idée de lire nos moyens, mettre nos moyens en commun, et on va lancer un appel à projet pour les artistes qui se reconnaissent dans ce type de pratique-là, pour avoir des financements. Donc on va en sélectionner, on va venir un jury. Alors il n'y aura pas que nous, il y aura évidemment d'autres. L'enjeu, c'est d'associer d'autres acteurs, d'autres culturels qui auraient envie de venir soutenir ces projets-là et de sélectionner ensemble des projets, puis les accompagner, puis de leur donner évidemment le meilleur élan possible pour qu'ils vivent leur vie de projet artistique le plus épanouissement possible, et surtout avec enfin des moyens pour la création un peu plus conséquent. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu fait avec des bouts de ficelle, pour le dire.
C'est pas rien en ce moment d'obtenir des... C'est pas rien en ce moment d'obtenir des moyens, quoi.
Ben non, c'est pour ça qu'on est hyper content, évidemment, pour nous, mais au-delà d'Electronica, pour le secteur, ça fait... Nous, on est aussi, évidemment, des militants culturels, ça fait 25 ans qu'on se bagarre, on bagarre évidemment avec nos petits moyens, mais qu'on est aussi des militants et qu'on est très content que cette reconnaissance arrive et que du coup on a, alors à notre petite échelle avec d'autres, et puis surtout on est témoin là d'une mutation un peu conséquente, on va dire, du logiciel des financements publics de la culture. Et effectivement, dans le contexte actuel, c'est pas rien. Donc on s'en réjouit évidemment.
Oui, et puis je pense que c'est une dynamique importante aussi pour les partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler. C'est aussi remontrer notre fiabilité, notre solidité, d'arriver avec peut-être un nouveau souffle. En tout cas, ça nous réjouit, et je pense que à la fois à Rennes et plus globalement, ça rappelle combien il est important et précieux de travailler ensemble, surtout dans le contexte que l'on connaît.
Aussi, un autre projet, entre guillemets, une autre chose que vous faites, c'est une saison nomade. En quoi est-ce que ça consiste, et est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu ce qu'il y a au programme potentiellement?
Alors là aussi, on est en plein dedans, en train de construire tout ça. L'idée, c'est... de rayonner davantage, de faire rayonner davantage ce type de création en région Bretagne. On a, nous, depuis 25 ans, beaucoup travaillé sur le territoire breton, rennais, pardon, avec le festival Maintenant, qui est évidemment un peu la tête de pont. L'idée, c'est de proposer ou d'accompagner ou de mettre en évidence ou en lumière ou de collaborer avec d'autres acteurs un peu en partout en région pour que ce type de création soit plus régulièrement diffusé et puis que d'autres acteurs qui... peut-être aurait pas les codes, parce que forcément le numérique ça appelle un savoir-faire des fois technologique, technique, un accompagnement, un besoin, et quand on est programmateur des fois ça peut aussi faire peur, ou en tout cas poser des questions, et nous notre rôle demain c'est d'être là à leur côté pour susciter des collaborations autour de ce type de projet. Et donc pour répondre à la question, pour cette première année on va démarrer de manière un peu expérimentale à terme. L'idée, c'est que je vous parlais de créations qui vont être accompagnées. L'idée, c'est que ces créations-là, on va les faire circuler sur le territoire. En gros, l'idée, c'est qu'on veut vraiment leur donner un bon élan quand elles vont être créées, ces créations, et ben, elles soient très rapidement diffusées et qu'elles puissent vivre leur vie de création. En 2025, on n'a pas encore de création créée, alors il y en a qui existent déjà. Et on veut monter 3 opérations sur 3 départements, le 35, le 22 et le 56. Et on est en train de discuter avec différents acteurs de ces 3 territoires-là pour mener 3 opérations dès cette année pour mettre ça en œuvre tout de suite.
C'est sûr que l'idée aussi est bien sûr de toucher des publics plus variés, différents, qui ne viennent pas forcément jusqu'à Rennes sur le temps du festival. Et, Et ça a un impact évidemment sur nos rythmes aussi de travail et donc d'imaginer autrement l'impact, je le dis, par rapport au festival maintenant qui basculera finalement en biennale, donc tous les deux ans.
D'accord.
Pour justement donner la place à cette saison nomade, aux autres publics, aussi
news.
Pour travailler davantage voilà. Mmh. On dit sur les œuvres et sur le rayonnement des œuvres.
Et donc, toutes les informations seront à retrouver sur votre site, j'imagine, progressivement.
Tout à fait, exactement. Ouais, sur electronique-k.org.
Et puis, en écoutant 6 heures avant minuit aussi, j'espère qu'on continuera à se tenir au courant, en tout cas en ce qui concerne le festival tous les deux ans, alors maintenant, et puis la suite pour ce pôle de création régionale. Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça. Puis, bonne continuation, bon début, du coup.
Merci beaucoup.
Bon début. Merci beaucoup.
6 heures avant minuit.
Une fois par mois, c'est la chronique littéraire d'Aglaé, c'est l'heure de Apocalypse Mémé.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Apocalypse Mémé. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'a pas tellement fait froid pour Noël. Perso, j'attendais avec impatience la neige, le verglas, les gens qui râlent parce qu'ils doivent racler et dégivrer leur pare-brise, mais rien, pas un flocon. Et aujourd'hui, eh bien sachez qu'il a fait 8 degrés à Rennes. Et hier, 9 degrés. Oui, mais quand même, pour un hiver, enfin voilà. Donc, soit 2,7 degrés de plus que la moyenne selon France Info. Rassurant, non? Ah oui, non en fait, pas rassurant. Alors, si vous avez un doute, oui, vous écoutez bien Apocalypse Mémé et non pas une chronique météorologique, quoique j'y penserai la prochaine fois. Donc, attendez, il y a bien un lien avec la littérature, ça arrive. Déjà, le réchauffement climatique que j'évoquais, ainsi que les catastrophes écologiques et la défense des écosystèmes, on en entend parler globalement partout, et encore plus dans les médias. Si cela vous angoisse, sachez que vous n'êtes pas tout seul, et que ça a un nom, l'éco-anxiété. Mais bref, vous l'avez compris, les températures actuelles m'ont inspiré le thème de cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature dans la littérature. Alors je vous préviens, ce sera clairement pas exhaustif, je ne vais par exemple, pas vous parler en long, en large, du fait que la nature, les paysages inspirent les artistes, toutes disciplines confondues depuis des siècles et des siècles. Alors juste un exemple, Virgile, au 1er siècle avant Jésus-Christ déjà, dans Les Bucoliques, dépeignait la nature comme un monde utopique où humain et environnement s'harmonisent parfaitement, et où les paysages reflètent et sont associés à la psyché humaine. Si vous voulez le lire, allez-y, c'est un classique. Ça raconte la vie des bergers dans les campagnes romaines. Mais préparez-vous, la lecture sera peut-être peu commode, car c'est un poème, bon jusque-là, ça va, mais en hexamètre dactylique. Et
oula.
Avec... oui, le mot fait peur. Et avec un vocabulaire parfois obscur, en voici donc un extrait de la première partie.
Heureux vieillard, tes chants te resteront donc, et ils sont assez étendus pour toi, quoique la pierre nue et le jonc fangeux couvrent partout tes pâturages. Des herbages inconnus ne nuiront pas à tes brumes pleines, et le mal contagieux du troupeau voisin n'infectera pas le tien. Vieillard fortuné, là, sur les bords connus de tes fleuves, près de tes fontaines sacrées, tu respireras le frais et l'ombre. Ici l'abeille d'Ibla, butinant sur les saules, en fleurs qui saignent tes champs sur de l'or. Verte clôture, t'invitera souvent par son léger murmure à goûter le sommeil. Et tandis que du haut de la roche, l'émondeur poussera son chant dans les airs, tes chers ramiers ne cesseront de roucouler, la tourtelle de gémir sur les grands ormeaux.
Tout ça, et plus particulièrement le topos du paysage état d'âme dont je viens de parler, me fait penser, mais je ne vous apprends probablement rien, que les auteurs et autrices utilisent aussi pas mal la nature dans les métaphores. Par exemple, dans le roman Mopra de George Sand, publié en 1837, tout est question de nature et de culture. Pour vous résumer, alors attention, spoiler alerte, c'est l'histoire d'un gars, Bernard, qui n'est pas très civilisé, voire pas du tout, car il a grandi avec de vrais truands. Un jour, sa cousine, Edmée, qui, elle, très instruite, est capturée par les truands. Il parvient à la sauver et à la ramener chez elle. Lui tombe sous son charme, mais elle ne veut pas de lui tant qu'il ne sait pas se conduire. Finalement, après moult péripéties, parfois très violentes, Bernard est instruit et épouse Edmée. En fait, il est le narrateur de son histoire et à un moment se métaphorise, si je peux dire.
Mon manque d'éducation surpassait tout ce qu'on avait prévu. Mais sans doute, on augura bien du fond. Car on ne m'abandonna pas et on travailla à tailler ce quartier de roc avec un zèle qui marquait de l'espérance.
Un autre truc, tout aussi évident en soi, c'est que les descriptions de l'environnement donnent parfois une ambiance tout à fait particulière. Par rapport à ça, je pense immédiatement à Kafka sur le rivage, un roman d'Haruki Murakami paru en 2002. Ce livre, je ne vais pas tenter de vous le résumer, ce serait franchement trop compliqué. Si vous êtes curieux, curieuse, lisez-le. Attention, âme sensible, s'abstenir, car des événements bizarres en veux-tu, en voilà. Des chats qui n'ont rien demandé se font tuer, et il y a des scènes sexuelles à foison. Et pour couronner le tout, l'histoire est fortement tournée vers un complexe d'Oedipe particulièrement prononcé.
Sympa.
Voilà donc un extrait qui se passe au moment où le personnage principal, Kafka, explore une forêt.
Je m'arrête pour regarder derrière moi. Rien dans ce paysage inconnu ne m'encourage à continuer. Des troncs lugubres, en rangs si serrés qu'ils se chevauchent, limitent mon champ de vision. Dans la pénombre des alentours, l'atmosphère stagnante paraît vert foncé. Je n'entends même pas d'oiseaux chanter.
Je me suis égarée, c'est apocalyptique aujourd'hui, c'est pas grave.
C'est le nom de la chronique.
Exactement, donc ça passe. À la base, quand je parlais de la présence des questions environnementales dans les médias et de l'éco-anxiété, vous vous souvenez, je voulais parler de l'éco-poétique. C'est une discipline qui étudie la littérature française dans ses rapports avec l'environnement naturel, si j'ai à peu près compris. Par rapport à ça, je vais parler d'un livre que je n'ai pas lu, pour ne rien vous cacher, mais il a l'air bien. Il s'agit du roman Le règne du vivant, écrit par Alice Fernet et publié en 2014. Dans ce livre, on suit un reporter qui s'engage auprès de Magnus Wallace, un activiste. En fait, pendant longtemps, ce roman a été le seul roman français où la protection de l'environnement s'exprime de façon militante. Enfin bref, vous nous direz votre avis dans notre répondeur, bien sûr. C'était Apocalypse... T'as vu ? C'était Apocalypse Mémé, votre chronique littéraire apocalyptique à retrouver une fois par mois. Et merci encore à Cyriane pour sa très bonne lecture des extraits.
Merci Aglaé pour ces belles évasions littéraires. En parlant du répondeur, un dernier petit mot avant qu'on se quitte.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Un retour sur la chronique d'Aglaé peut-être, ou sur nos reportages, sur ce qui a été dit avec nos invités, un message à nous faire passer, quelque chose près de chez vous. N'hésitez pas, laissez-nous un message vocal, le numéro c'est le 02 30 96 25 35, il sera diffusé à la fin de l'émission. D'ici là, je vous dis à demain, merci Timothée pour la technique.
Sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs vitaux.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.